Vous écoutez France Culture.
Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Hey, you know what? Suite et fin d'une semaine sur le bac philo dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine entière que vous pouvez télécharger, chers auditeurs et lycéens, une semaine pour vous, 5 sujets traités en direct ou presque dans le studio 119 de la Maison de Radio France en compagnie de 5 professeurs de terminale. Après François Pépin, Marc-Henri Arfe, Samia Sala et Pascal Sévrac venus vous parler respectivement de la raison, du temps, de l'art et de l'illusion, c'est Carole Diamant que nous accueillons ce vendredi pour clore cette semaine. Carole Diamant qui enseigne à Sciences Po et qui est le seul point commun entre cette semaine d'enregistrement et la semaine que nous organisions l'an dernier, déjà sur le bac philo. Carole Diamant l'a bien nommée, que les nouveaux chemins de la connaissance accueillent toujours avec joie. Bonjour Carole Diamant.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue de nouveau au Nouveau Chemin de la Connaissance. Alors, l'homme peut-il être inhumain? C'est avec ce sujet qu'on va terminer cette semaine, c'est la question du jour. Et c'est d'ailleurs la question de tous les jours. Quelle meilleure question que celle-là, tant l'actualité est riche de faits divers qui semblent y répondre. Alors partons, si vous en êtes d'accord, du paradoxe interne à la question et qui doit sauter aux yeux de tout lycéen qui se respecte. Comment l'homme peut-il être inhumain s'il est un homme? Autrement dit, suffit-il d'être un homme pour être humain. Est-ce qu'une telle interrogation est un bon début?
Alors, moi, il me semble que c'est un sujet intéressant pour les élèves, justement parce que le paradoxe saute aux yeux et que ça va calmer leur inquiétude de l'examen. Devant le paradoxe, ils vont immédiatement se dire un homme, puisqu'il est homme, ne peut pas être inhumain, et donc ça n'est pas la question qu'on me pose. Donc, je pense que dès le début, dès le rapport au sujet, dès le premier rapport au sujet, ils vont avoir à s'interroger sur la direction dans laquelle ils vont prendre la question. Et le sujet l'engendre, le sujet l'induit, ça. Donc, je pense que ce sujet est un cadeau pour les élèves, parce qu'il les met immédiatement sur cette division entre faut-il s'interroger de savoir ce que c'est qu'un homme, de quoi s'agit-il quand on parle d'un homme, c'est-à-dire s'interroger sur le plan ontologique, on dirait, sur le plan de l'être même de l'homme, et puis très vite, parce que si on s'interroge sur le plan, faisons-le rapidement, si on s'interroge sur la question de savoir si l'inhumanité, ce serait le contraire de l'humanité. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire un homme inhumain, ce serait un homme qui n'a pas les caractéristiques humaines, on est d'accord. Donc, alors il penserait, j'imagine, tout de suite à Descartes qui définit l'homme comme celui qui pense. Je pense, je suis et je suis homme. Et il se dirait donc, un homme qui serait inhumain serait un homme qui ne penserait pas, peut-être un homme qui n'aurait pas de conscience, un homme qui serait éminemment différent, distinct de tous les autres hommes. On voit bien que cette direction aboutit à une impasse. Et de ce point de vue-là, je trouve que le sujet est porteur pour les élèves. Il n'est pas angoissant. Parce que je suppose qu'ils vont très rapidement passer dans leur introduction de... On ne peut pas traiter le sujet de ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue de la nature humaine en tant d'un point de vue ontologique, comme je le disais tout à l'heure, de l'être même. Donc, il faut le regarder sous un autre angle. Et je crois que très rapidement, ils vont s'interroger sur la question pratique et la question morale.
Et puis voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Inhumain est ici à prendre, non pas au sens littéral. Hein. On a bien vu que sinon, il suffirait de dire que l'homme n'est pas un animal et pour révoquer la
ça
question.
Ça pourrait même être un peu troublant parce que quelquefois, les animaux ont des attitudes humaines.
Et il arrive aussi que les hommes aient des attitudes animales.
C'est juste.
Mais on va peut-être y venir d'ailleurs hein, dans le cours de cette conversation. Mais on comprend bien que la notion d'inhumanité ici s'emploie, d'ailleurs au quotidien, hein, quand on parle d'un crime inhumain, par exemple, c'est-à-dire un crime qui donne le sentiment de bannir de l'humanité celui qui le commet.
Qui le perpétue, voilà. Alors, exactement, la question de l'inhumanité, elle s'adresse plus, et je pense que les élèves vont très vite s'en apercevoir, à l'acte de l'homme qu'à l'homme lui-même. Ce qui leur permet, dans l'introduction, déjà de montrer qu'ils ont été capables de faire ce petit cheminement analytique qui les conduit à dire que ce qui est inhumain, c'est... Oh, si on cherche un synonyme, on va dire c'est la barbarie, c'est la violence, c'est la puissance exercée sur autrui, c'est tout ce qui va engendrer peut-être, perpétrer peut-être la mort, comme vous le disiez à l'instant.
Mais Carole Diamant, pardonnez-moi, est-ce que ça n'est pas là aussi une façon de révoquer la question tout de suite? On a vu, bon, l'homme ne peut pas être inhumain puisque c'est un homme et que c'est pas un animal, inhumain pris au sens de non-humain, et en revanche, l'homme peut être inhumain au sens qu'on lui donne, dans la mesure où l'homme peut être un criminel, peut être un barbare, l'homme peut accomplir des choses qui passent l'imagination en termes de violence, de haine, de sorte que dans un cas, évidemment, l'homme ne peut pas être inhumain car l'homme n'est pas un animal, dans l'autre, évidemment, l'homme peut être inhumain parce que l'homme peut être barbare. Est-ce que le danger de cette question n'est pas la tentation d'y répondre trop vite ?
Eh bien, je ne crois pas. Je crois qu'ils vont avoir le premier réflexe, parce que je crois que tous ont vu cet auteur et tous ont vu cet aspect, ce point particulier dans cette théorie, c'est Rousseau. Je serais bien surprise qu'ils ne pensent pas à Rousseau. En fait, je pense qu'ils vont avoir l'idée de, est-ce que, je suppose qu'ils vont se poser cette question, est-ce que l'inhumanité appartient à tous les hommes ? Est-ce qu'il est en l'homme d'être inhumain ? Ou au contraire, est-ce que l'inhumanité est une sorte de perversion de l'humanité ? C'est ça la question, je pense, qu'ils vont se poser. J'imagine qu'ils vont pouvoir démarrer, avec le point de vue de Rousseau, dont je pense que vraiment toutes les classes, quelles qu'elles soient et quel que soit l'endroit du lycée, toutes les classes ont vu cette position rousseauiste. Et je pense qu'à partir de Rousseau, ils vont pouvoir essayer de montrer, d'une part, qu'on peut envisager, et qu'en tout cas Rousseau l'a fait, un être humain qui ne soit pas inhumain, c'est-à-dire qui, naturellement, pour reprendre le vocabulaire rousseauiste, qui naturellement n'a pas en lui, pas même la possibilité d'être inhumain. C'est-à-dire qu'il n'a pas en lui les ressorts nécessaires, il n'a pas en lui les sources nécessaires d'une action inhumaine. Il n'a pas, comme chacun sait, les passions brutales, il n'a pas cette violence en lui, il n'a pas cette volonté de détruire l'autre, il a au contraire, face à l'autre, une sorte de générosité qu'il appelle la pitié naturelle. Je pense que les élèves ne manqueront pas de rappeler ce point-là. Une sorte de générosité, une sorte de mouvement intérieur spontané et naturel qui le pousserait naturellement vers l'autre et qui, au fond, lui interdirait l'inhumanité.
Oui, mais la générosité en question procède de l'amour de soi, dont Rousseau situe l'origine dans l'inscription de l'homme au sein de la nature et non plus dans sa capacité de s'en affranchir. Mais on va revenir sur ce débat avec vous, Carole Diamant. Juste procédons par ordre, comme dirait Descartes, et par méthode, et revenons-en au commencement. Il faut, pour toute bonne dissertation, fabriquer une problématique, formuler une question qui permette de, qui, reprenant les termes du sujet, manifeste les tensions qui s'y trouvent et qui ne s'y trouvent pas au premier abord. Ainsi, comment, au terme de l'analyse de ces deux termes, homme et inhumain, comment, en analysant ces deux termes, on produit une question qui doit nous servir de fil conducteur ?
Alors, il me semble que justement, pour la question de la problématique, on est sorti dès le début de cette opposition brutale humain-inhumain et on est passé par la dimension de l'acte. Je crois qu'on peut même préciser que l'acte inhumain, ce n'est pas n'importe quel acte, c'est un acte qui s'adresse à autrui. Et ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que la même action sur un objet n'est pas considérée comme inhumaine, sur un autre homme est considérée comme inhumaine. En passant par là, il me semble que la problématique peut être assez facile à comprendre pour les élèves. Et il me semble qu'ils peuvent se demander assez rapidement, non pas si les hommes sont capables ou non de faire le mal, c'est-à-dire d'exercer la barbarie telle que nous le disions tout à l'heure, mais sur la question plus complexe de savoir si la conduite inhumaine est une perversion ou non de la nature humaine, si produire la violence et donner la mort conduisent l'homme à perdre un statut fragile, un statut mouvant, qui serait celui de l'humanité. Si bien que la question problématique va porter beaucoup plus sur qu'est-ce que l'humanité est-elle ou non donnée à l'homme ? Est-elle une caractéristique dont l'homme hérite comme d'une évidence, ou bien est-elle susceptible soit d'être pervertie, soit de disparaître, soit d'être acquise si elle n'a pas été donnée.
Est-ce que comme façon d'entrer dans cette dissertation, par exemple, on pourrait prendre l'exemple de Kim Gelder, qui a assassiné 3 enfants dans la crèche de Terre-Monde, et dont, pour parler de lui, les adjectifs qui reviennent le plus souvent sont en général inhumain, barbare et monstrueux, c'est-à-dire des adjectifs qui désignent tous une exclusion du règne ou du royaume de l'humanité. C'est-à-dire, spontanément, la conscience collective, et à bon droit d'ailleurs, comment ne pas communier dans la détestation radicale d'un tel geste, c'est très difficile de ne pas applaudir à ce genre d'adjectif en la circonstance, mais est-ce qu'il n'est pas important, intéressant, et peut-être d'ailleurs un exemple possible d'ouverture, de relever cette particularité qui veut que, face à un geste comme ça, la conscience collective, spontanément, et peut-être même un peu hypocritement, l'exclut de l'humanité.
Si elle est hypocrite, alors elle n'est pas si spontanée que vous avez l'air de le dire.
On peut être spontanément hypocrite.
Bon, L'hypocrisie, c'est tout de même une... Il y a duplicité dans l'hypocrisie, donc il y a double position. Est-ce que la spontanéité n'interdit pas la duplicité? Je pense que ça nécessiterait une interrogation.
Oui, c'est un autre sujet.
Oui, sans doute. Mais en tout cas, on peut vraiment se poser cette question.
Mais est-ce qu'on peut partir de ça, par exemple?
On peut partir de votre exemple, évidemment. On part d'un exemple d'inhumanité absolue. Et vous dites, ça va révolter l'ensemble de l'humanité. Moi, j'en suis pas absolument certaine. Et en tout cas, c'est pas vraiment la question. La question, c'est de savoir comment et pourquoi l'un va le faire, les autres vont en être révoltés. C'est ça la question que vous posez, me semble. Alors, ça nous ramène précisément au statut de l'humanité et on peut s'interroger de savoir si on n'a pas ici à revenir à la position cartésienne, à savoir être un homme, c'est être conscient de ce qu'on est, d'être quelque chose et considérer qu'on a une responsabilité dans les actes qu'on perpétue. C'est considérer également que certaines choses qui nous sont possibles nous sont interdites. Mais c'est poser de la même manière que ces interdits-là, l'homme lui-même se les fixe à lui-même, se les pose à lui-même et ne les subit pas comme venant de l'extérieur. La preuve en est que l'exemple que vous donniez et des tas d'autres plus collectifs comme les guerres et les génocides de tout poil que nous avons largement vus en ce XXe siècle montrent bien que très nombreux sont les hommes qui sont capables de perpétrer un acte aussi violent que celui que vous avez décrit, mais plus violent peut-être encore s'il s'agit de la collectivité. Donc en fait, il me semble qu'on ne peut pas considérer, comme vous aviez l'air de le faire, que spontanément les hommes sont révoltés par un tel acte, mais que les hommes sont le produit de leur propre culture et que cette culture aidant, les hommes ont considéré que l'humanité était ce que l'homme se doit à lui-même.
Excusez-moi, Carole Diamant, c'est un fait de culture pour vous d'être révolté par le meurtre d'un enfant ?
Eh bien, pour moi, puisque vous dites pour moi, je pense que oui, en effet, tout à fait. Je pense qu'il faudrait être rousseauiste pour penser que ça n'est pas un fait de culture. Or, les faits...
Enfin, c'est un fait de culture qui transcende les cultures, alors, hein, quelle que soit la culture en question.
On pourrait discuter. Il y a des cultures où, en effet, un enfant peut être sacrifié, à la bonne cause.
Oui, mais en l'occurrence, justement, ce qui était insupportable dans le geste... C'est que ça semblait sans cause. C'est l'absence de raison. Quand Agamemnon sacrifie Iphigénie, la pauvrette, si j'ose dire, il a une cause pour ça. Il a une raison de le faire. Alors,
donc,
on peut désapprouver
son acte. Donc, en effet, on peut considérer que ça n'est pas l'acte lui-même qui compte. Du coup, ça n'est pas tuer un enfant qui compte. C'est la raison pour laquelle on tue l'enfant. C'est-à-dire ce que la conscience humaine va produire d'informations et de développement de pensée pour... oui ou non, accomplir tel acte, c'est-à-dire pour considérer que cet acte est acceptable dans la conception que nous avons d'une humanité, ou pour considérer qu'il est inacceptable. Si jamais l'individu qui juge ne se sent pas impliqué dans les raisons qui ont conduit l'autre à perpétrer cet acte, alors il devient inhumain. Ce qui nous conduit à quoi ? À dire quoi ? À dire que ni l'humanité, ni l'inhumanité n'est jamais clairement définie. Que l'humanité comme l'inhumanité nous conduisent à la question du bien et du mal, qui elles-mêmes ne sont jamais définitivement fixées, comme nous savons tous.
Comme nous savons tous, enfin, comme
Nous espérons le savoir.
Voilà, c'est ça, comme on aimerait le savoir. Alors, allons-y, hein, la conduite inhumaine est-elle une perversion ou non ? De la nature humaine, c'est la problématique que vous nous proposez. Quelle première partie à partir d'une telle problématique et d'une telle question, donc à laquelle, rappelons-le encore une fois, hein, la problématique, c'est la question à laquelle il faut répondre.
Mais la question à laquelle il faut répondre, il me semble ici, c'est bien de savoir si cette humanité qui est en question dans le sujet, elle nous est donnée, elle nous est attachée comme indétachable, comme impossible de l'outrepasser, impossible de la dégrader, ou si au contraire cette humanité est à faire. Si cette humanité est à faire et faite par l'homme lui-même. Si cette humanité c'est quelque chose qui nous est donné, ou si cette humanité c'est quelque chose que nous projetons, tel un but, un objectif, une forme de télos pour l'humanité, et qui serait donc finalement peut-être assez mouvante d'une culture à une autre, puisque vous suggériez cette idée. On peut partir, je partais de Rousseau, puisque Rousseau me semblait s'opposer à cela.
Quel titre donneriez-vous à une première partie pour un élève qui essaie de vous suivre ?
Eh bien écoutez, il me semble que...
Quel angle d'attaque en somme ?
Il me semble qu'on pourrait dans une première partie, envisager l'impossibilité pour l'homme, s'il n'y est pas poussé par des raisons extérieures à lui-même, des raisons artificielles, eh bien peut-être l'impossibilité de tuer, de détruire celui qui est son semblable. C'est bien ce que vous suggériez tout à l'heure dans la violence éprouvée face au meurtre et à la destruction.
Ce que je suggérais par cet exemple, c'était pas seulement ça, c'était également le fait que face à un tel meurtre, on avait spontanément, peut-être commodément, tendance à immédiatement exclure de l'humanité celui qui le commettait, tout simplement pour ne pas soupçonner le risque du mal en chacun de nous.
Il faut donc pour ça avoir déjà défini l'humanité. Si on se reporte dans
Mais la définition est implicite quand on le traite d'inhumain.
La question que le sujet pose, c'est peut-on être inhumain ? Ce qu'il veut dire au fond. Y a-t-il des actes qui peuvent être appelés inhumains et qui peuvent être définis comme tels, ou tous les actes humains sont-ils finalement la marque d'une humanité qui elle-même n'est pas définie? C'est la question de la définition
de l'humanité. Est-ce que l'humanité inclut la barbarie?
Oui, on peut poser la question comme ça, mais en même temps, vous voyez bien que
en présumant qu'on sait ce que ça veut dire.
Et c'est ça, vous voyez bien que si on pose la question de la barbarie de cette manière aussi brutale, je dirais, puisqu'il s'agit de la barbarie, ça veut dire qu'on part d'un présupposé qui définit ce que c'est qu'un acte barbare et qui définit ce que c'est qu'un acte qui n'est pas barbare ou qui est inhumain. Vous donniez tout à l'heure l'exemple du sacrifice, nous donnions ensemble l'exemple du sacrifice. On voit bien qu'on est, puisque vous avez pris un exemple grec, on voit bien qu'on est dans une culture qui est parfaitement humaine, qui est parfaitement raffinée, qui a défini ce qu'était l'humanité et qui s'autorise, dans des cas exceptionnels, à produire des actes que nous pouvons considérer comme barbares et qui ne le sont pas par cette culture-là. Donc on a une sorte de relativisation de la question de la barbarie et du mal. Moi, je crois que c'est ça qui est intéressant. Enfin, en tout cas, c'est ça qui peut m'intéresser parce qu'il me semble que les élèves vont y arriver comme ça. C'est-à-dire, il m'a semblé, moi, que les élèves auraient pu voir cette espèce d'opposition, de dichotomie qu'on leur pose très fréquemment entre d'un côté Rousseau, d'un côté Hobbes, c'est-à-dire l'un qui considère que l'humanité en l'homme est bonne et généreuse, l'autre qui considère que l'humanité en l'homme est foncièrement mauvaise et destructrice. Et à ce moment-là, si on part dans une deuxième partie de la position de Hobbes, on se rend bien compte que l'acte inhumain, c'est tout ce qu'il y a de plus humain. L'acte barbare, c'est tout ce qu'il y a de plus humain.
On va y venir. Partons de la première. Impossibilité de tuer ou de détruire celui qui est son semblable. Hein. Je l'ai pris sous votre dictée, Carole Diamant. Quel exemple, quelle image, quel cas de figure avère cette position? Qu'est-ce qui permet de plaider une telle position?
L'impossibilité de tuer son semblable.
Mais oui.
L'impossibilité de tuer son semblable. Moi, il me semble que...
À moins d'y être poussé, hein, c'est ce que vous disiez.
Oui, oui, à moins de considérer que... La question que vous posez, c'est donc bien de savoir qu'est-ce qui peut interdire à un homme de tuer son semblable. Mais je vais y répondre, sans doute. Mais du coup, vous troublez ma manière d'avoir aperçu les choses parce que j'espérais y arriver en fin de course, en vérité.
Pardonnez-moi, je croyais que c'était le titre de votre première partie, donc j'essayais de vous suivre. Alors, quelle est la première partie?
C'est plus compliqué que ça. La première partie, c'est une partie qui considérerait que l'homme étant bon naturellement, il lui faudrait une humanité dégradée pour parvenir à la barbarie. Voilà, c'était ça la première idée. Et je pensais que les élèves pourraient se soutenir de la position de la pitié naturelle.
Ah voilà, alors parlons-en donc justement de Rousseau, de la pitié naturelle. L'homme donc étant bon naturellement, ou disant en tout cas innocent naturellement, il ne peut pas de lui-même, sans qu'on l'y porte, hein, tuer son semblable. Il faut pour ce faire entrer dans une logique qui est celle de
dégradation.
De dégradation, selon Rousseau, mais qu'on pourrait aussi appeler d'humanité, c'est-à-dire d'entrer dans l'histoire, de construction d'une société,
de collectivité.
Et de remplacement, chez Rousseau, de l'amour de soi par l'amour propre.
Oui, alors du coup, si on reste, pour ne pas s'éloigner de notre sujet, si on reste dans cette position rousseauiste, on voit bien que l'humanisation, ou en tout cas l'humanité de l'homme, l'humanité en l'homme de l'homme, c'est une conduite, c'est un comportement qui interdit à l'homme de détruire son prochain. Vous m'accordez cette position-là. Donc, on admettrait que naturellement, si on suit la position rousseauiste, on admettrait que naturellement, l'homme ne se trouve pas dans une possibilité de détruire et de perpétrer le meurtre. Pourtant, c'est ce qui va se produire avec le temps et avec l'histoire, comme vous le dites. Mais du coup, on pourrait amener l'idée que l'histoire, le temps et l'organisation des sociétés, c'est bien la culture qui intervient par opposition à la nature. Et du coup, Rousseau, lui, attribue sans aucune difficulté le crime, la douleur, la barbarie, la violence...
À l'introduction de la culture.
Du coup, on peut rester sur cette idée de la culture et se dire, alors, c'est la culture qui va engendrer la barbarie, et à moins de se détruire elle-même, à moins d'aller à une destruction généralisée, à moins de, que ça devienne un mot d'ordre de la société et de la culture, il va bien falloir trouver le moyen de s'opposer à cette conséquence qui paraît être une conséquence engendrée par les désirs, la jalousie, l'envie, comme il le dit lui-même, la possession, la propriété. Il va bien falloir, pour protéger la société, trouver le moyen d'imposer à cette humanité l'interdiction de la barbarie.
En somme, l'humanité est à la fois l'humanité, c'est-à-dire le spécifiquement humain chez Rousseau, qui est ce qui nous permet d'échapper au règne naturel. Ce qui fait qu'en somme, un homme peut, à la différence d'un animal, par exemple, ne pas se laisser mourir sur un tas de graines s'il est végétarien, mais peut-être changer ses habitudes. En somme, ce qui caractérise l'homme et qui le distingue de l'animal, c'est-à-dire sa perfectibilité, c'est-à-dire son imperfection, son aptitude à changer, par conséquent, contrairement aux animaux. Donc, l'humanité de l'homme est également ce qui le fait entrer dans l'histoire, ce qui permet de constituer des sociétés, ce qui le fait également entrer dans le crime, la possibilité du crime, possibilité qui n'est pas inscrite dans la nature humaine ou dans l'humain comme nature. Et au-delà de ça, c'est également ce qui justifie que l'homme, revenant sur les conséquences de son entrée dans l'histoire, se donne des lois qui l'empêchent de commettre ces crimes-là. Est-ce que je résume votre pensée ? Ou celle de Rousseau, en tout cas ?
Oui, je crois que la position de Rousseau, vous l'avez parfaitement bien résumée. Moi, je pense que les élèves n'iront pas jusque-là. En fait, ce que je pense, c'est qu'ils vont opposer brutalement la question, l'interrogation sur ce que serait l'homme au départ. Et c'est dans cette optique-là que j'avais vu cette opposition, que j'avais vu apparaître peut-être cette opposition entre une conception de l'homme impossible à vérifier, qui serait anté-civilisation, anté-société, et une position de l'homme qui est bien plus facile à vérifier parce qu'elle est quotidiennement sous notre nez et qu'elle est le fait donné dans les sociétés et qui serait la barbarie généralisée. Cette barbarie généralisée, les élèves ne peuvent pas ne pas la voir, ça ne fait aucun doute. Maintenant, face à cette opposition-là entre ces deux conceptions d'une humanité qui, pour l'une, serait plutôt bonne et généreuse à l'égard de son semblable et pour l'autre, plutôt destructrice à l'égard de son semblable, eh bien, il me semble que face à cette opposition-là, les élèves auraient pu d'eux-mêmes considérer donc que le fait important n'était pas le fait de nature, mais le fait de culture. Or, ce fait de culture, une fois développé, conduit le sujet élève, je dirais, à l'interrogation sur la liberté de développer l'une ou l'autre des cultures qui sont données à l'humanité elle-même.
Aller du côté de Jekyll ou du côté Hyde, par exemple ?
Non seulement ça, oui, aller du côté de Jekyll ou Hyde, mais surtout, si vous voulez, la question de la liberté, elle nous sort de ce dilemme et de cette problématique de l'inhumanité, l'humanité de l'humanité, puisque elle plonge l'individu dans la possibilité pour lui de choisir, sans s'appuyer sur aucun antécédent, sur aucun présupposé, de choisir, oui ou non, de développer telle ou telle sorte d'humanité qui s'inscrirait soit dans une barbarie, soit dans ce qu'on pourrait appeler la conception des droits de l'homme.
Pas le docteur Jacob.
Hello, Dr. Jacob.
Mon nom est Hyde, Mr. Hyde.
Docteur Jekyll avait en lui un monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret n'en pensait pas moins.
Hello, Dr. Jacob.
Je vous dis que je ne suis pas le docteur Jacob. Hyde, Mr. Hyde.
Docteur Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde, dans son cœur, prenait des notes pour le docteur.
Carole Diamant est notre invitée. Carole Diamant qui enseigne à Sciences Po, qui est prof de philo et en compagnie de qui nous terminons cette semaine sur le bac philo, donc une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance ont consacrée à l'épreuve redoutable, faussement redoutable, du bac philo. L'homme peut-il être inhumain ? C'est le sujet du jour. On a vu avec vous, Carole Diamant, dans quelle mesure la conduite inhumaine était ou non une perversion de la nature humaine, et essayer de voir avec Rousseau dans quelle mesure l'homme était interdit de détruire son prochain selon les lois de la nature. Maintenant, on pourrait, peut-être pour cheminer dans cette dissertation et dans cette réflexion, opposer, parce que Rousseau lui fait lui-même d'ailleurs, la parole de Hobbes à la parole de Rousseau, pour le dire rapidement. Rousseau est celui qui dit que l'homme est innocent à l'état de nature. Hobbes est celui qui dit que l'homme à l'état de nature est mu par les deux passions de la domination et de la préservation. Ainsi, Rousseau reproche à Hobbes non pas de parler de l'homme à l'origine, non pas de parler de l'homme à l'état de nature, mais tout simplement de parler de l'homme à l'état de civilisation, à l'état de société. Alors, qui des deux peut avoir raison ? Est-ce qu'on ne peut pas objecter à Rousseau que l'homme, naturellement, est porté à la fois à se protéger et en même temps à exterminer son semblable ?
Ce qu'on peut surtout reprocher à Rousseau, c'est d'avoir produit une hypothèse imaginative.
Il a dit « écartons tous les faits, hein, car il ne touche point à la question ».
Et il le dit clairement. Donc, c'est surtout cet élément-là qu'on peut reprocher à Rousseau, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que Rousseau s'est surtout interrogé finalement sur les conséquences d'une société organisée et d'une culture développée, bien plutôt que de savoir finalement si l'homme était bon au départ ou pas bon au départ. Il semble bien que, et quand on voit le travail de Rousseau par la suite, on voit bien que ce qui l'intéresse surtout, ce ne sont pas les deux premiers états de nature, mais l'état de culture. Et de fait, il me semble que c'est aussi ce qui nous intéresse d'une part, c'est aussi ce à quoi les élèves ont pensé immédiatement. Au fond, j'allais chercher Rousseau pour essayer de trouver le moyen de justifier une position qui, malgré tout, envisagerait au départ une bonne nature. Voilà. Je pense que les élèves auront cette idée-là. En revanche, à un moment donné, évidemment, la deuxième partie tombe sur le fait que, du point de vue, non pas du droit, bien sûr, mais du fait, on aperçoit cette barbarie absolument partout. D'ailleurs, paradoxalement, il arrive qu'on attribue aux animaux des conduites humaines, ce qui montre bien que... Alors, qu'est-ce que c'est ces conduites humaines ? Ce sont des conduites qui sont généreuses à l'égard de l'autre. C'est un chien qui fait 200 km pour aller retrouver son maître ou qui meurt à côté de lui. On voit bien que l'humanité est définie par la société, par la culture elle-même, comme précisément la préservation et la conservation et de l'individu et du groupe social. Alors, la question qu'on se pose dans ce sujet, pour y revenir, l'homme peut-il être inhumain ? C'est au fond, à ce moment-là, la question du peut. Peut-il être inhumain ? Donc, peut-il être inhumain ? Cela signifierait, dans un deuxième temps, a-t-il le droit d'être inhumain ? Et pour quelles raisons le serait-il, et surtout pour quelles raisons devrait-il échapper à cette inhumanité ? Quand on s'interroge sur cette question, on voit bien que, qu'il en ait le droit ou pas, le fait est là. Il y a donc également dans ce sujet la possibilité pour les élèves d'opposer la notion de droit à l'évidence du fait. L'évidence du fait, c'est que les hommes sont capables d'être barbares. Vous donniez un exemple très précis, on peut dire celui-ci ou celui-là, mais au fond, les hommes sont capables d'être barbares. Que faire avec ce sujet-là ? Que faire avec cette évidence ? Que faire avec cette manifestation de la réalité devant nous ? Eh bien, je pense que les élèves ont deux manières peut-être de se sortir, je dirais, de cette tension, de ce mauvais pas. C'est premièrement l'idée que les cultures sont créées par les hommes et que la liberté humaine va permettre aux hommes de définir de telle ou telle manière cette humanité. Comment cette humanité va-t-elle être définie ? Elle va être définie par une sorte de nécessité qui est la préservation. Alors, si on admet que l'étoffe même de l'individu n'est pas une humanité qui serait précisée ou une inhumanité qui serait au départ existante également, mais la possibilité de se définir soi-même absolument comme on l'entend, si on admet ça, alors on se rend compte que la question de l'humanité et de l'inhumanité touche bien plus à une sorte d'hypothèse et d'imagination, c'est-à-dire de but vers lequel l'homme doit tendre, plutôt que, comme ça peut s'entendre au départ, comme quelque chose qui serait donné à l'homme par nature. Donc une fois qu'on en est là, évidemment que l'homme peut être inhumain, je pense au petit texte de Sartre, Le diable et le bon Dieu, où en effet on voit le même homme, d'un côté développer d'abord une sorte de diabolisation, d'inhumanité absolue, puisqu'il tue tout ce qui bouge et qu'il est un immense guerrier, et puis changer du jour au lendemain sa position, sa façon d'être, et décider volontairement, délibérément, librement, de s'opposer à cette première position. Alors, si on admet ça, je pense que les élèves connaissent ce texte, ils connaissent aussi L'existentialisme est un humanisme, où Sartre développe longuement cette idée de...
L'existentialisme est un humanisme fait partie de ces textes de Sartre qu'on peut tout à fait lire en septembre terminal. C'est important
oui,
de le dire,
après.
Parce que, bien sûr, même après, mais... C'est comme Le banquet de Platon, si vous voulez, qu'on peut aussi lire toute sa vie. Hein. L'existentialisme est un humanisme ou Le banquet de Platon font partie de ces textes cardinaux parce que ce sont des portes d'entrée merveilleuses qui donnent à comprendre que la philosophie n'est pas jargonnante. Je clôt
elle
la parenthèse.
Elle n'est pas jargonnante et elle n'est pas morte puisque précisément ce texte, puisque vous y insistez, c'est un discours en fait. Ça n'est pas un texte écrit. Et donc Sartre montre par là que la philosophie, elle peut être vivante. D'ailleurs, je crois que notre échange le prouve également.
Alors justement, Carole Diamant, parce que je voudrais quand même revenir sur un point très important. On doit à nos élèves une certaine forme de franchise parce que c'est très intéressant. On assiste là, depuis 5 minutes, à un rétablissement acrobatique de votre part. Vous m'avez confié pendant qu'on écoutait
Est-ce
du Gainsbourg...
Est-ce que c'est un compliment ?
Oui, c'est un compliment. Parce que vous m'avez confié pendant qu'on écoutait du Gainsbourg, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vous m'avez confié que vous étiez complètement paumé dans l'histoire, vous étiez parti sur
le
un
traître.
Truc et puis sur un autre, etc. Mais... C'est intéressant, pourquoi ? Parce que c'est une situation qui est parfois celle du bachelier qui, au bout de 2 heures de travail, se dit « Mon Dieu, où suis-je ?» Or, ce qu'il faut rappeler au bachelier, c'est qu'il peut, au bout de 2 heures, se rétablir, retomber sur ses pieds. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Vous m'encouragez ?
Élève Diamant.
C'est un peu différent, parce que, je vais, puisque vous entrez dans ce débat-là... La question, elle ne se pose pas exactement de cette façon-là pour le bachelier, parce que le bachelier se trouve tout seul sur sa copie. Et c'est tout le problème. Et c'était aussi mon problème tout à l'heure. J'étais moi-même toute seule sur ma copie, et puis tout d'un coup, je me trouve face à vous, et je me trouve face à un autre esprit. Un autre esprit qui, lui, aperçoit les choses de son point de vue, entend mes mots de son point de vue, avec son interprétation. Et du coup, ça me jette dans ce trouble de la philosophie, qui est la nature même de la philosophie, au fond, ce trouble, et ça peut bouleverser, en effet, une manière de comprendre et de voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu acrobatique dont vous parliez ? Ce jeu acrobatique...
Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous retombiez sur vos pieds, en fait ? Voilà, c'est ça qui m'intéresse.
Déjà, on va voir si je suis retombée sur mes pieds, première chose, mais si jamais je suis retombée sur mes pieds, c'est tout simplement que j'ai repris le fil de ma propre pensée, mais que j'ai été capable de la regarder, peut-être, à partir de votre regard, ou en tout cas d'un regard extérieur au mien. Ce qui n'est pas si simple, parce que ce que l'élève souhaite, et le professeur aussi, je viens de le prouver, c'est trouver un fil assez ténu et qui soit assez serré pour finalement évacuer la douleur de la confrontation des idées et de la difficulté à dire et à voir clair dans une question qui est toujours une question difficile et problématique. Et si j'ai un petit conseil à donner à l'élève, c'est qu'il doit, comme je le fais ici, ne jamais nier cela. C'est-à-dire qu'il peut même montrer dans sa copie que le cheminement qu'il a pris l'amène à un point délicat, un point difficile, et qu'il va reprendre son cheminement par une autre acception du thème.
Alors allons-y, justement, reprenons le fil de ce qu'on se disait tout à l'heure. Fermons cette parenthèse. La capacité de la barbarie, hein, c'était là-dessus qu'on était, hein, réflexion.
Cette capacité de la barbarie. La question est donc de savoir si l'humanité peut être inhumaine, et nous étions, vous souvenez, sur la question du pouvoir. Alors le pouvoir, je crois que si le pouvoir c'est le fait, nous avons traité cette question. Elle ne pose pas problème. Maintenant, le pouvoir ici signifie autre chose. Le pouvoir ici signifie, est-ce que l'homme se reconnaît le droit de vivre barbare et dans la barbarie ? Est-ce qu'il se donne à lui-même cette possibilité d'être lui-même le fossoyeur, je dirais, de la représentation qu'il se fait lui-même à partir de la culture humaine, de ce que serait l'humanité.
En somme, est-ce que quelqu'un peut dormir tranquille après avoir tué ?
Si vous l'entendez du point de vue psychologique, évidemment, je ne peux pas répondre à cette question. Si nous l'entendons du point de vue intellectuel, alors rien ne nous prouve qu'un homme serait constitué de telle sorte qu'il soit incapable de regrets ou de remords ou de douleur intérieure pour avoir détruit son semblable.
Vous vous souvenez de Macbeth, on pourrait parler de Thérèse Raquin aussi, hein, des individus qui sont hantés par le fantôme de celui qu'ils ont tué.
Oui, alors qu'il soit hanté, c'est une chose, mais pourquoi effectivement cette démarche? Sans doute parce que dans cette destruction, il y a une forme de communauté qui a été détruite. Et sans doute que dans cette barbarie, on peut imaginer, mais je rechigne tant à le dire, parce que l'histoire nous montre que certains ont vécu extrêmement bien et semble-t-il sans ce remords. Malgré tout, on peut imaginer qu'être un homme, et là on peut penser plus précisément à Lévinas au fond, être un homme, c'est peut-être être capable de ce sentiment d'une commune humanité et d'une humanité qui, si elle est attaquée, agressée, détruite en l'autre, est en partie détruite en moi-même. Cela, évidemment, en posant ce que nous avons posé au départ de cette seconde partie, à savoir que nous ne sommes plus des animaux naturels, si toutefois nous l'avons jamais été, mais nous sommes des animaux culturels et nous avons appris ce qu'est l'humanité en nous par l'intermédiaire du langage et de la culture.
Mais alors, que faire, Carole Diamant, de ces civilisations parfaitement cultivées, parfaitement éduquées, et qui, pourtant, commettent les crimes les plus abjects? Alors, évidemment, l'exemple le plus frappant ici, c'est les Allemands, le peuple débonnaire dont parle Jean Kelevitch, qui est devenu, et c'est une énigme pour l'humanité, cette meute de chiens enragés pendant la guerre. Et ceci, d'ailleurs, avec de temps en temps, comme c'était le cas avec Eichmann, en brandissant l'alibi culturel et une lecture tout à fait particulière de la critique de la raison pure. Et du système kantien. Donc, que faire de cette façon qu'on peut avoir de trafiquer la culture ou de trahir les leçons implicites de la culture, c'est-à-dire d'être cultivé tout en trouvant le mal en soi? Je fais ici référence à Renan. Renan dit, sans aucune modestie d'ailleurs, « Moi qui suis cultivé, je ne trouve pas le mal en moi. » Que faire de celui qui, quoique cultivé, n'en continue pas moins de commettre des actes barbares? Comment affronter ce cas de figure?
Est-ce que la culture, d'abord, que recouvre ce terme culture ici à travers la manière dont vous le dites? Est-ce que la culture, c'est la raison? On n'en est pas absolument certain. Et en tout cas, si c'est la raison, on peut aussi distinguer entre une raison pure et une raison pratique. C'est-à-dire que l'Allemagne nazie ait été capable d'enchaîner les arguments en toute logique, je crois que personne ne s'oppose à cette conception-là. Mais vous dites vous-même, ce qui est l'énigme, c'est que la raison est capable d'enchaîner très logiquement et cependant de se conduire ou de produire des actes qui sont parfaitement barbares. Maintenant, l'homme a le droit à l'inhumanité, il a le choix de l'inhumanité, il l'a fait. Parce qu'on parle évidemment de la barbarie nazie, on peut parler également du Rwanda qui est plus proche de nous, où en effet le corps à corps était tellement violent et tellement virulent qu'on s'interroge de savoir comment un homme a pu couper l'autre en morceaux. Parce que si on compare ces deux exemples tragiques, d'un côté certains nazis n'avaient que le bouton du gaz, je dirais, à tourner, et il faisait ça avec les mains tout à fait propres, ce qui n'est pas le cas pour le Rwanda, où la machette découpait les individus comme le fait remarquer Hatzfeld. Donc dans tous les cas, l'énigme humaine, c'est qu'en effet la culture ne nous protège pas de nos pulsions violentes, et à ce moment-là, si on entre dans cette question de cette espèce d'échappée à nous-mêmes à ce moment-là, puisque je disais le mot pulsion, évidemment qu'on peut faire référence à les appeler Freud au secours, et puis diviser l'homme entre sa conscience et son inconscient qui, par instant, pourrait venir supplomber la conscience. Au fond, ça n'est pas vraiment ça, notre histoire. Au fond, ça n'est pas ça, parce que dans le système nazi parfaitement organisé, il n'y a pas place à la pulsion, semble-t-il. Il y a place à une production rationnelle, organisée, d'un crime généralisé.
that is America.
Alors, cette part d'humanité, est-ce que l'homme le peut ? Est-ce que l'homme peut être cette inhumanité, cette barbarie ? Sans aucun doute, il le peut. Il l'a fait, il le prouve. Maintenant, là où on peut peut-être espérer en l'humanité, c'est que pour l'avoir fait et pour avoir prouvé qu'il l'a fait, il peut également s'interroger sur ce qu'il a fait. Il peut également dire « plus jamais ça ». Ce « plus jamais ça », il suppose que l'homme prétend être son propre maître, prétend être capable d'instaurer une civilisation ou une culture qui soit capable d'évacuer toutes ces pulsions et en tout cas de les maîtriser ou de les transformer de telle sorte qu'elles ne s'adressent plus à l'autre. Alors pourquoi ferait-il ça ? Eh bien sans doute pour le seul souci d'une humanité digne du terme d'humanité. Je crois que ces tensions et cette difficulté dans lesquelles nous nous trouvons pris et parfois emmêlés, ça nous conduit simplement à montrer que aussi bien l'humanité que l'inhumanité, plus encore l'humanité que l'inhumanité, est un terme qui fuit sans cesse, qui échappe sans cesse et auquel nous avons toujours à nous référer pour tenter d'être à la hauteur de ce que nous avons supposé qu'était un homme.
Donc, c'est un combat, soit gagné, soit perdu, tantôt gagné, tantôt perdu, entre d'un côté une culture susceptible de rendre l'homme à son humanité, et de l'autre côté une culture qui échouerait à le faire. Vous aviez parlé de Lévinas tout à l'heure. Est-ce que ça n'est pas ici le moment justement de faire intervenir la position lévinasienne, peut-être pour une troisième partie, Carole Diamant ?
Alors absolument, Lévinas a su au moins nous donner l'espoir face, précisément comme chacun le sait, au camp d'extermination et à la Shoah, puisque Lévinas part finalement du présupposé inverse. C'est-à-dire qu'il ne se demande plus ce qu'est l'humanité, mais il va la définir à partir de cette impossibilité de détruire et de tuer. C'est-à-dire que l'humanité, la seule humanité possible, sera cette humanité qui obéit au commandement, divin ou pas, du « tu ne tueras point ». Il me semble que c'est la seule conclusion finalement possible à laquelle les élèves peuvent arriver. C'est une conclusion qui fixe la possibilité pour l'homme de se définir lui-même et qui exige de lui-même une obéissance à ce qu'il a fixé lui-même et pour lui-même. C'est précisément ce que nous propose Lévinas.
Mais est-ce qu'on n'est pas là, pardon, dans une position morale face au monde ? C'est-à-dire dans une position qui finalement, face au monde comme il va, n'a que la ressource de l'anathème ou de la déploration.
Et nous est-ce avons aussi dit que la question était morale.
Mais oui, mais alors est-ce qu'on n'est pas là justement dans une position exclusivement morale, c'est-à-dire une position qui, face à l'évidence d'un crime, continue de dire « ça n'est pas ce qu'il faut faire, ça n'est pas là être fidèle à l'humanité ». Est-ce qu'on n'est pas là, en somme, face à un discours qui, devant le monde tel qu'il est, ne peut que constater son impuissance et formuler le vœu pieux d'une humanité qui serait un jour délivrée de ses pulsions barbares.
Mais qu'est-ce que vous pourriez supposer d'autre ? Une exigence quelconque, un principe quelconque auquel nous serions tenus d'obéir ?
Non, parce
une
qu'un
contrainte
principe
absolue.
Reconduit quelque chose de moral.
Et nous
justement.
Serions contraints de toute façon. Qu'est-ce que vous suggérez qui ne soit pas de la contrainte ? Il n'y a qu'une contrainte possible ou alors un choix possible pour nous. Et il semble bien que l'humanité se trouve constamment plongée, jour après jour, siècle après siècle et dans toutes les occurrences, se trouve plongée dans cette difficulté. Nous nous trouvons aussi plongés dans cette difficulté face à une destruction possible de notre environnement et de notre terre. C'est-à-dire se trouve plongée sans cesse devant cette question cruciale et vitale qui finalement est la définition de l'humanité, qui est est-ce que je me regarde moi-même ? Est-ce que je me juge moi-même ? Est-ce que je me détruis moi-même ? C'est-à-dire qu'au fond, l'humanité peut aller à la destruction. Nous sommes peut-être dans une position, comme vous le disiez à l'instant, une position morale, voire, j'entendais à travers ce que vous disiez, peut-être moralisante. Mais quel choix avons-nous, sinon celui d'être notre propre maître ?
Ben, on peut considérer aussi que le comportement humain n'est pas réglementé ou n'est pas réglé par des valeurs absolues. Prenons un exemple d'un homme qui a été commodément tenu par inhumain, alors qu'il est non plus Kim Gelder. Hein. Prenons un exemple littéraire, peut-être le Meursault de l'étranger. Le Meursault de l'étranger est un homme que ses semblables condamnent à mort, au nom de la morale, au nom de la justice, au nom de la justice des hommes, et qui le condamne à mort. Pourquoi ? Non seulement parce qu'il a tué quelqu'un, mais surtout parce que d'abord il n'éprouve aucun regret, et deux, parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa propre mère. En d'autres termes, voilà un homme, en l'occurrence, la barbarie, c'est davantage l'effet de la morale. Je ne sais pas s'il y ait une philosophie qui rompe avec la morale et qui nous guérisse de la barbarie, mais le fait est qu'il arrive que bien souvent, la morale en elle-même soit barbare. On peut tout simplement, pour cela, prendre l'exemple de la peine de mort, qui n'est pas une affaire de justice, mais une affaire de vengeance, Carole Diamant.
Mais que vous preniez l'un ou l'autre exemple, dans les deux cas, ce qu'on aperçoit, c'est la position que vous rappeliez au début, c'est-à-dire la position de la révolte devant l'indignité de l'homme lorsqu'il détruit l'autre homme. Parce que vous avez raison de dire qu'il a été condamné essentiellement parce qu'il n'a pas pleuré à la mort de sa mère. N'empêche qu'il s'est retrouvé au prétoire parce qu'il a tué. Et donc, on est de toute façon, cette révolte, elle est de toute façon appuyée sur la destruction de l'autre. Donc, qu'est-ce que vous-même vous entendez dans cette objection ?
Ce que j'entends dans cette objection, c'est simplement que l'inhumanité de l'homme... L'homme peut être inhumain, mais l'inhumanité de l'homme est parfois contenue dans ce qui soi-disant, fait de lui un homme au sens plein, c'est-à-dire la morale, les principes, et qu'en somme, il y a parfois plus de barbarie dans le fait de brandir des principes et de couper la tête de quelqu'un au nom de ses principes que dans le fait de tuer un homme parce qu'on a pris un coup de soleil, ce qui est le cas de l'étranger de Camus.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais à ce moment-là, ce que vous voulez dire, c'est que là, vous parliez, quand vous dites c'est moral, vous voulez dire c'est la morale sociale. La peine de mort, c'est la morale sociale. Or, si on se reporte à Lévinas, on n'est pas du tout dans cette optique-là. On n'est pas dans une morale qui est fixée et qui est fixée dans les détails de valeurs qui seraient exigées des uns et des autres. On est bien plutôt dans un seul interdit, véritablement.
Qui ne tuera point.
Qui est l'interdit de la mort. Cet interdit vaut aussi bien pour l'individu qui attaque la collectivité que pour une collectivité qui s'attaquerait à un homme.
Oui, mais il faudrait un sophisme à ce moment-là. Parce que celui qui dit « tu ne tueras point » face à quelqu'un qui tue, alors un lévinassien lui dira bah, « en fait, tu as tué, mais tu n'as pas vraiment tué ». Mais écoutez, que je sache, quand on tue, on tue. Donc, que répond Lévinas à celui qui tue quand lui dit « tu ne tueras point » ?
Eh bien, il répond simplement qu'il est hors de l'humanité. C'est ça la force de Lévinas. La force de Lévinas, c'est bien de montrer que si nous avons droit au terme d'humanité, c'est précisément parce que nous respectons immédiatement, à la simple confrontation du visage de l'autre, l'impossibilité, nous éprouvons spontanément, immédiatement, l'impossibilité de tuer. Et la nécessité de la protection.
Janis Joplin, pour terminer cette émission en votre compagnie, Carole Diamant, Try Just a Little Bit Harder. Merci.
Merci à vous.
Merci donc Carole Diamant. Je rappelle que vous êtes philosophe, vous enseignez à Sciences Po, cette année, à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous êtes également l'auteur d'un livre que j'ai plaisir à citer, dont je recommande la lecture à nos édiles. Un livre intitulé « École, terrain miné », paru et en 2005 maintenant, hein, chez Liana Lévy. Et c'est de la question de savoir si l'homme peut être inhumain que nous avons parlé aujourd'hui pour clore avec vous cette semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent au bac philo. Vous pourrez, chers auditeurs, hein, je le dis tous les soirs, podcaster ces émissions toute la semaine, donc, et encore aujourd'hui, sur notre site internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance. À la technique, aujourd'hui, c'était Jean-Louis Deloncle. À la réalisation, Jean-Claude Loiseau, assistant Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Laetitia Cordonnier et Tristan Grenacia. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard.